μου μικρή. Από σένα και από μένα άλλος δεν χωράει να μπει. Το δικό μου παπλώμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου παπλώμα. Αφεντικό. Στην καλύβα τη δική μου νοικοκύριση είμαι εγώ. Το δικό μου παπλώμα είναι για δύο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου παπλώμα. Αγαπώ. Και το πάπλωμα θα φτάσει να σκεπάσει και τους δυο. Το δικό μου πάπλωμα είναι για δυο άτομα και δεν παίρνει παλώμα το δικό μου πάπλωμα. Το δικό μου πάπλωμα. Το δικό μου πάπλωμα.
Yeah, ok, salut, bienvenue sur... Sur Feu de Toutbois et Willy Hardy.
Radio Diwa.
On dit tout de suite ce qu'il y a.
5. Et alors, cette petite musique là qu'on vient d'écouter, vous avez reconnu, c'était de la musique grecque, musique populaire grecque, un petit peu finalement en solidarité avec nos camarades, nos amis, nos collègues qui sont en Grèce et qui sont en première ligne des changements actuels. Et qui me faisait penser à juste une petite chose que j'avais envie de dire sur la Grèce et sur la soi-disant crise dans laquelle on est. Parce que je vous avais parlé de cette grande manif syndicale européenne qui a eu lieu le 14 novembre, où j'étais à Liège. Et j'ai rencontré là-bas un groupe de gens qui réfléchissent sur l'économie. Il y a aussi des gens à Liège qui réfléchissent sur l'économie. Et qui faisaient remarquer, et je trouvais ça intéressant, qu'on a l'impression qu'on est en crise, qu'il n'y a pas assez de logements, qu'il n'y a pas assez de nourriture, qu'il n'y a pas assez de chauffage, etc. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le capitalisme, on est dans des crises de surproduction, en fait. Donc, ce n'est pas des crises... on n'est pas dans le manque, on n'est pas dans la pauvreté, en fait, au niveau global. On est plutôt dans la surabondance, mais certaines personnes n'ont pas accès aux choses. Et je trouvais ça intéressant, leur point de vue, qui replaçait ça à sa juste place.
En fait, les capitalistes sont obligés de détruire certaines choses, pour souvent du bien public, pour assurer leur revenu, pour maintenir leur revenu, comme on a tant d'exemples pratiques autour de nous, à tous les niveaux,
assez proche,
logement,
hein,
écologique.
Même à 10, ça se passe. Voilà. Hein,
et donc, les premières lignes, c'est partout. Alors, c'est pour la solidarité avec nos camarades de Grèce et du monde entier. Comme s'il y avait un portable qui traînait,
portable.
Tout ça.
Si
quoi. C'est pas du tout
un
c'est pas un bruit qui vient de l'extérieur, c'est un petit téléphone.
Une petite interférence, on va dire. Donc, si vous pouviez éteindre vos téléphones portables après le décollage de l'avion.
À propos de décollage de l'avion, j'ai une annonce. On attaque par les annonces.
J'ai une annonce.
J'ai une annonce.
Vas-y, Aileen.
En tout cas, une annonce pour commencer, c'est que le samedi qui vient, qui sera le samedi 1er décembre, qui vient en tout cas, on l'espère, à 18h, à Martin-en-Vercors. C'est un petit village. Les catholiques l'appellent plutôt Saint-Martin-en-Vercors. Mais
voilà,
moi je ne suis pas catholique, alors du coup, c'est Martin-en-Vercors. On s'appelle Martin, c'est ce héros populaire qui a partagé son manteau en deux, pour, d'après ce que je crois, ou ce qu'on sait, ou peut-être qui a dupliqué les manteaux, mais en tout cas, pour donner à quelqu'un pour partager.
Cloné.
C'est Martin. Martin, la ville de la solidarité, sans doute ce soir-là, ce soir du samedi qui vient à 18h, puisqu'il y a une collecte au profit de Notre-Dame des Landes, disent les catholiques, et des Landes, dit-on plus communément, voilà, pour les camarades qui luttent là-bas. Alors du coup, des vêtements chauds, ou alors de l'outillage, ou alors de la thune, si vous avez de la thune aussi.
Et j'en profite pour vous faire juste remarquer...
Ouais.
un petit détail sonore de la voix, puisqu'on est à la radio, c'est concentrez-vous, écoutez bien la manière que Aline a de dire les huit, qui est assez, qui est tout c'est à son, fait subtil.
Ses origines lointaines belges lui rappellent.
C'est une solidarité purement
construite. Avec les langues
construite.
Inférieures et
inférieures.
Et alors du coup, oui, c'est vrai qu'on dit à l'université que les parle le français, les pays, la France et les anciens pays colonisés. Et en fait, la Belgique n'a jamais été un pays colonisé de la France et il est, voilà. Mais du coup, on parle aussi une France.
En français.
Un français.
Ouais, moi, j'avais une question. Là, tu disais qu'il y avait une collecte donc, à Martin-en-Vercors, mais alors comment ça va se passer
Alors, on peut aller directement avec des ballots de choses sur place, ou des outillages, ou des trucs. Et alors, en fait, le but des gens qui. Des camarades vertacomicoriens, vertacomicoriennes qui organisent cette collecte, c'est de remplir un camion. Et une fois que le camion est plein, donc peut-être sera dans 2 semaines, peut-être sera dans 3 semaines, le plus tôt possible. De faire un voyage à 2-3, un voyage éclair express là-bas pour apporter du matos dont des gens là-bas ont besoin pour s'équiper, pour passer l'hiver tranquillement. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que voilà, on vient à 18h, il y a une projection de petits films là pour se mettre en train, et un repas, ce qu'en Italie on appelle cena sociale, un repas social, un repas partagé à participation libre. Voilà. Et parallèlement, on peut aussi aller rencontrer les camarades qui organisent cette rencontre pour participer à un voyage qu'ils proposent à Notre-Dame-des-Landes. Et pour ça, alors vous savez, les grandes causes à Feu de tout bois, moi je trouve, sont parrainées par des animateurs, ou à Erdiwa plutôt. Et cette fois, c'est Stéphane qu'on avait eu l'occasion d'accueillir pour la charbonnière. Et qui avait fait une libre antenne un peu folle. C'est lui qui parraine cette opération pour les auditeurs et les auditrices de RDIWA. Et du coup, on peut l'appeler en tant qu'animateur vedette au 06 83 408 321. On retrouve ce numéro en podcast et puis je le redirai tout à l'heure. Pour participer à un voyage à Notre-Dame-des-Landes. Alors, on peut aller là-bas pour apprendre à grimper à la corde. Et si on ne sait pas grimper, on peut y aller. Il y aura là-bas des gens qui auront du matériel à prêter et à faire expérimenter. Et voilà, on peut en janvier, février. Voilà, c'est là, ce que je n'avais pas dit, c'est que ce petit voyage collectif à des Landes est prévu en janvier, février.
Est-ce qu'on continue sur les annonces ou du coup, comme on a commencé?
Ça, c'était samedi. Écoute, vraiment, là, on est. T'as quelque chose de plus. De qui vient après, toi?
Avant.
Ah, ouais. Ah, non, là, là.
Ah, ouais.
Mais bien sûr.
Demain.
Mais bien sûr. Ouais, une te sert à redresser ton micro.
Voilà.
Et la deuxième. Et dispo.
Gratter les cheveux encore.
Oui, mais bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on est parti. C'était une transition demain.
Et il y a à 19h, du coup, une réunion. Je crois que ça a été déjà un petit peu annoncé, mais bon. Parler ou une discussion autour de ce qui se passe à Cocos dans le contexte qu'on sait de appartements occupés, de présence policière et puis de drôme aménagement habitat qui a détruit les autres appartements non occupés. Mmh. Et bah, du coup, il y a la proposition de se rencontrer demain à 19h, de prendre une petite soupe, un petit repas et puis discuter de tout ça. Comment on peut faire pour maintenir les appartements occupés, comment on peut en faire pour lutter là-bas contre un peu les agissements plutôt agressifs de ces gens-là.
Dash.
Et aussi parce qu'il y a un lieu d'activité qui a... Moi d'ailleurs, j'en reparlerai bien parce qu'il y a eu une cantine populaire qui a eu un succès incroyable mercredi dernier, quoi. Et du coup, il y a des activités là-bas et il y a possibilité qu'il y en ait d'autres aussi. Du coup, c'est aussi pour discuter de ça, pour que les gens qui veuillent venir se demander ce qui se passe, comment on fait pour participer aux activités qui sont déjà en place, comment on fait si on veut en amener d'autres et tout ça. Et ben, s'ils se posent toutes ces questions-là, et ben, ou s'ils veulent juste nous rencontrer. Et ben, voilà, c'est...
Donc, cantine populaire hier. Et, yeah. Tous les mercredis,
et tous les mercredis,
de 12h à 14h,
ouais.
Qui enchaînent sur la bibliothèque InfoKiosque. Et demain, réunion publique à 19h. Et puis la bibliothèque InfoKiosque sera encore ouverte le dimanche après-midi. Et puis ensuite, c'est parti pour les semaines à venir avec de nouvelles idées qui enrichissent tout ça.
Ouais, on y compte bien.
Avons-nous d'autres annonces ou puis-je parler d'un petit sujet ?
Ah, alors une annonce, oui, lundi, il y a une manif anti-TAV à Lyon, anti-train haute vitesse qui va aller, qui...
Lyon-Turin, projet voilà. De ligne Lyon-Turin, et qui rencontre beaucoup d'opposition du côté, de l'autre côté des Alpes, côté italien, mais jusqu'à présent en France, pas tellement d'opposition. Donc,
alors, j'ai, compte tenu du programme chargé de cette émission, j'ai pas le temps de vous parler de l'appel du collectif anti-TAV de Valence, qui est dans le combat syndicaliste qui vient de sortir, mais du coup, ça vaut le coup d'aller à la manif le 3 décembre, contre toutes les industrialisations de merde de ce monde capitaliste. Et puis, on aura l'occasion de reparler de cet appel et de collectif anti-TAV de Valence.
On peut peut-être juste dire que c'est la François Hollande et M. Monti seront présents à Lyon justement pour parler du TAV. Et que c'est cette occasion qui donne le prétexte à cette manifestation qui, un lundi, du coup, c'est pas très pratique, mais c'est important d'y être quand même.
Ouais, l'occasion de se retrouver. Et puis, et voilà. C'était l'annonce du lundi. On a d'autres... Ouais, voilà.
Au revoir. Il y a un petit, peu, un petit blanc, car nous saluons un invité.
Salut.
Et
Alors, un sujet.
Hop, sans transition. Ah, yeah. Poulou. On parle d'un sujet. Alors, donc, vous savez qu'en même temps, dans les grands sujets d'actualité, de débat national du moment... À côté de Notre-Dame-des-Landes, il y a ce qu'on appelle le mariage pour tous et toutes. Hein, vous savez, ce projet de loi du gouvernement de rendre possible le mariage pour les couples homosexuels ou transsexuels, enfin pour toutes les personnes. Ce sujet fait beaucoup débat, fait beaucoup réactions. Il y a eu beaucoup quand même de manifestants
beaucoup
très débat,
tu veux dire beaucoup débat des apostrophes, hein, moi j'ai l'impression ça.
Beaucoup
ouais.
Débat peut-être aussi, ouais.
Ouais, ça c'est
débat.
Du coup, vas-y, pardon.
Et en tout cas, j'ai trouvé un texte qui m'a plu. Un texte écrit par Virginie Despentes, qui est une écrivaine et réalisatrice de cinéma assez connue. On va dire assez féministe, qui a fait des films connus comme Baise-moi, par exemple, et qui a également écrit le livre King Kong théorique. Si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas lu, je peux vous le conseiller. Ce qui est agréable avec Virginie Despentes, c'est son style, je trouve, qui est assez direct et en même temps mordant et avec un certain humour. Et donc, elle a publié une tribune sur le site internet de Tétu, qui est donc le journal... très connu pour les homosexuels, plutôt hommes, plutôt les PD. Et donc, cette tribune est une réponse à une déclaration de Lionel Jospin, qu'il a faite sur Canal+, il n'y a pas longtemps, où il dit... Donc, en fait, il est revenu sur ses réserves quant à l'ouverture du mariage aux couples homo. Il a dit « C'est la position de mon parti, et donc je la respecte. » Voilà, ce n'était pas la mienne au départ. Ce que je pense, c'est que l'idée fondamentale doit rester pour le mariage, pour les couples et pour la vie en général, que l'humanité est structurée entre hommes et femmes. Ça, on voit bien que c'est quand même une frontière très importante dans la tête de beaucoup de gens. Alors, je commence à vous lire Virginie Despentes.
Pour Jospin, en tout cas, là, c'est lui qui. Pour
c'est
lui, ça
qui
a l'air sûr.
Position,
hein. Là,
ouais.
Il dit donc, fou.
Mais c'est pas le seul, hein, parce non, que.
J'ai déjà entendu cette idée
quelque
part.
Quand même,
ouais.
Cette idée. Ouais. Voilà. Alors, cette semaine, c'est Lionel Jospin qui s'y colle. Il trouve qu'on n'entend pas assez de conneries comme ça sur le mariage gay. Il y va de son solo perso. Tranquille, hein, c'est sans homophobie. Il n'a pas dit qu'on avait le droit de casser du PD ou de pourrir la vie des bébés guines au lycée. Non, juste il tenait à signaler. Attention, avec le mariage, on pousse mémé dans les orties. L'humanité est structurée sur le rapport homme-femme. Donc ça, c'est une citation. Juste sans homophobie. Les guines et les PD ne font pas vraiment partie de l'humanité. Ils ne sont pas stériles. Mais comme ils ne vivent pas en couple, ce n'est pas de l'humain pur jus. Pas de l'humain humain, comme les monsieur Jospin.
Structurel, quoi. Ouais.
Ce n'est pas super délicat pour les célibataires et les gens sans enfants, son truc. Mais Jospin est comme ça. Il a une idée forte de ce qu'est l'humanité. Et l'humanité, c'est les femmes et les hommes qui vivent ensemble, copulent et produisent des enfants pour la patrie. C'est dommage pour les femmes, vu que, in fine, cette humanité-là, c'est l'histoire de comment elles en ont pris plein la gueule pendant des millénaires. Mais c'est l'humanité, que veux-tu, on la changera pas. Et il faut bien l'admettre, il y a d'une part la grande humanité qui peut prétendre aux institutions, et de l'autre une caste moins noble, moins humaine. Celle qui devrait s'estimer heureuse de ne pas être persécutée, qu'elle ne vienne pas en plus réclamer des droits à l'État. Mais c'est dit sans animosité, hein, sans homophobie, juste l'humanité. Certains d'entre nous en font moins partie que d'autres. Proust, Genet, Le Duc, Wittig, au hasard, moins humains que des hétéros. Donc selon Lionel Jospin, il faut que je comprenne et que je n'aille pas mal le prendre. Depuis que je ne suce plus de bites, je compte moins. Je ne devrais plus réclamer les mêmes droits, c'est quasiment une question de bon sens. Mais c'est dit sans homophobie, c'est ça qui est bien. Comme tous les hétéros qui ont quelque chose à dire contre le mariage gay, c'est davantage le bon sens que l'homophobie qui les pousse à s'exprimer. Dans ce débat, personne n'est homophobe, ils sont juste contre l'égalité des droits. Et dans la bouche de Jospin, on comprend bien. Non seulement contre l'égalité des droits entre homo-hétéros, mais aussi contre l'égalité des droits entre femmes et hommes. Parce qu'on est bien d'accord que tant qu'on restera cramponné à ces catégories-là, on ne sera jamais égaux. Je m'étais déjà dit que je ne me voyais pas femme, comme le sont les femmes, qui couchent gratos avec des mecs comme lui. Mais jusqu'à cette déclaration, je n'avais pas encore pensé à ne plus me définir comme faisant partie de l'humanité. Ça va me prendre un moment avant de m'y faire. C'est parce que je suis devenue lesbienne trop tard, probablement. Je ne suis pas encore habituée à ce qu'on me mette, à ce qu'on me remette à ma place toutes les 5 minutes. Ma nouvelle place, celle des tolérés. Au départ, cette histoire de mariage, j'en avais à moitié rien à faire. Mais à force de les entendre tous, sans homophobie, nous rappeler qu'on ne vaut pas ce que vaut un hétéro, ça commence à m'intéresser. Je ne sais pas ce que Lionel Jospin entend par l'humanité. Il n'y a pas si longtemps, une femme qui tombait enceinte hors mariage était une paria. Si elle tombait enceinte d'un homme marié à une autre, au nom de la dignité humaine, on lui faisait vivre l'enfer sur terre. On pouvait même envisager de la brûler comme sorcière. On en a fait monter sur le bûcher pour moins que ça. On pouvait la chasser du village à coups de pierre, l'enfant était un bâtard, à moins que rien. Bon, quelques décennies plus tard, on ne trouve plus rien à y redire. Est-on devenu moins humain pour autant, selon Lionel Jospin ? L'humanité y a-t-elle perdu tant que ça ? À quel moment de l'évolution doit-on bloquer le curseur de la tolérance ? Jospin, comme beaucoup d'opposants au mariage gay, est un homme divorcé, comme Copé, Le Pen, Sarkozy, Dati et Tutti Quanti. Cet arrangement avec le serment du mariage fait partie des évolutions heureuses. Les enfants de divorcés se fadent des beaux-parents parpelletés, alors que chez eux, ce n'est plus un papa et une maman. Non, alors chez eux, ce n'est plus un papa et une maman. C'est tout de suite la collectivité. On sait que les hétérosexuels divorcent plus facilement qu'ils ne changent de voiture. On sait que l'adultère est un sport courant, qu'on lit sur Internet les commentaires d'hétéros après la démission de Petreus, je vois pas qui c'est, pour avoir trompé sa femme, et on comprendra l'importance de la monogamie en hétérosexualité. Ils n'y croient pas une seule seconde, on trompe comme on respire, et on trouve inadmissible que ce soit s'en mêle. Et on sait d'expérience qu'ils ne pensent pas que faire des enfants hors mariage soit un problème. Ils peuvent même faire des enfants hors mariage tout en étant mariés, et tout le monde trouve ça formidable. Très bien, moi je suis pour tout ce qui est punk rock, alors cette idée d'une immense partouze à l'amiable, franchement je trouve ça super séant. Mais pourquoi tant de souplesse morale quand ce sont les hétéros qui se torchent le cul avec le serment du mariage, et cette rigidité indignée quand il s'agit des homosexuels ? On salirait l'institution, on la dévoirait ? Mais les gars, même en y mettant tout le destroy du monde, on ne la dévoira jamais davantage que ce que vous avez déjà fait, c'est perdu d'avance. Dans l'état où se trouve le mariage, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on accepte encore de s'en servir. Le Vatican brandit la polygamie, comme quoi les guines et les bougnoules, un seul sac fera bien l'affaire, mais c'est ni raciste ni homophobe, soyons subtils. N'empêche qu'on sait que les filles voilées non plus ne font pas partie de l'humanité telle qu'on la conçoit, telle que la conçoit cette gauche-là, mais passons. Ne vous en faites pas pour la polygamie, vous y êtes déjà. Quand un bonhomme paye 3 pensions alimentaires, c'est quoi sinon une forme de polygamie ? Que les cathos s'occupent d'excommunier tous ceux qui ne respectent pas l'institution. Qu'ils s'occupent des comportements des mariés à l'église, ça les occupera tellement d'y mettre un peu d'ordre qu'ils n'auront plus de temps à perdre avec les couples qui demandent le mariage devant le maire. Et c'est pareil pour les enfants, ne vous en faites pas pour ça. On ne pourra pas se comporter plus vilainement que vous ne le faites. Être des parents plus sordides, plus inattentifs, plus égoïstes, plus je m'en foutise, plus névrosés et toxiques, impossible. Tranquillisez-vous avec tout ça. Le pire, vous vous en occupez déjà très bien. Tout ça sans compter que l'humanité en subit d'autres, des outrages, autrement plus graves en ce moment. Les guines, les PD n'y sont pour rien. Je trouve Lionel Jospin mal organisé dans ses priorités de crispation. Il y a en 2012 des atteintes à la morale autrement plus brutales et difficiles à admettre que l'idée que deux femmes veulent se marier entre elles. Qu'est-ce que ça peut faire ? Je sais, je comprends, ça gêne l'oppresseur quand deux chiennes oublient le collier. Ça gêne pour les maintenir sous le joug de l'hétérosexualité, c'est ennuyeux, on les tient moins bien. Parfois la victime n'a pas envie de se laisser faire en remerciant son bourreau. Je pensais qu'une formation socialiste permettrait de le comprendre. Mais non, certaines formations socialistes amènent à diviser les êtres humains en deux catégories, les vrais humains et ceux qui devraient se cacher et se taire. Bon alors ça dure encore un certain temps, mais je ne vais pas tout vous lire.
Vas-y, je connais des gens à qui tu fais personnellement plaisir en lisant ce texte, qu'on rappelle qui est paru dans Têtu et qui circule aussi, qui est pas mal. Merci Virginie.
Voilà. Donc, bon, allez, je continue un petit peu. Allez, encore un petit peu, encore une petite tranche. J'ai l'impression qu'en tombant amoureuse d'une fille, qui de toute façon refuse de se reconnaître en tant que femme, mais je vais laisser ça de côté pour ne pas faire dérailler la machine à trier les humains, moins humains, de Lionel Jospin. Donc, j'ai l'impression qu'en tombant amoureuse d'une fille, j'ai perdu une moitié de ma citoyenneté. J'ai l'impression d'être punie, et je ne vois pas comment le comprendre autrement. Je suis punie de ne plus être une hétérote, humaine à 100%. Pendant 35 ans, j'avais les pleins droits. Maintenant, je dois me contenter d'une moitié de droits. Ça me chagrine que l'État mette autant de temps à faire savoir à Lionel Jospin et ses amis catholiques qu'ils peuvent le penser, mais que la loi n'a pas à être de leur côté. Si demain, on m'annonce que j'ai une tumeur au cerveau et qu'en 6 mois, ce sera plié pour moi, je ne dispose donc d'un contrat facile à signer avec la personne avec qui je vis depuis 8 ans pour m'assurer que tout ce qui est chez nous sera à elle. Si c'est la mort qui nous sépare, tout ce qui m'appartient lui appartient à elle. Si j'étais hétéro, ce serait réglé en 5 minutes. Un tour à la mairie et tout ce qui est à moi est à elle. Et vice-versa. Mais je suis Gwyn, donc selon Lionel Jospin, c'est normal que ma succession soit difficile à établir, qu'on puisse la contester ou qu'elle doive payer 60% d'impôts pour y toucher. Une petite taxe non homophobe, mais qu'on est les seuls à devoir payer alors qu'on vit en couple. Que n'importe qui de ma famille puisse contester son droit à gérer ce que je laisse, c'est normal, c'est le prix à payer pour la non-hétérosexualité. La personne avec qui je vis depuis 8 ans est la seule personne qui sache ce que j'ai dans mon ordinateur et ce que je voudrais en faire. J'aimerais, s'il m'arrivait quelque chose, savoir quelle sera la personne qui gérera ce que je laisse, comme le font les hétéros. Monsieur Jospin, comme les autres hétéros, si demain le démon de minuit le saisit et lui retourne les sangs, peut s'assurer que n'importe quel petit hétéro touchera sa part de l'héritage. Je veux avoir le même droit, je veux avoir les mêmes droits que lui et ses hétérotes. Je veux exactement les mêmes. Je paye les mêmes impôts qu'un humain hétéro, j'ai les mêmes devoirs, je veux les mêmes droits. Je me contre-tape de savoir si Lionel Jospin et ses collègues, non homophobes, mais quand même conscients que la pédalerie doit avoir un prix social, m'incluent ou pas dans leur conception de l'humanité. Je veux que l'État lui fasse savoir que je suis une humaine au même titre que les autres, même sans bite dans le cul, même si je ne fournis pas de gamins à mon pays. La question de l'héritage est centrale dans l'institution du mariage. Les sourds et les aveugles et les mal formés, pendant longtemps, n'ont pas pu hériter. Ils n'étaient pas assez humains. Ça me paraît heureux qu'on en ait fini avec ça. Les femmes non plus n'héritaient pas. Elles n'avaient pas d'âme. Leurs organes reproducteurs les empêchaient de s'occuper des affaires de la cité. Encore des Jospins dans la salle à l'époque, qui s'appelaient Proudhon par exemple. J'ai envie de vivre dans un pays où on ne laisse pas les Jospins faire le tri de qui accède à l'humanité et qui doit rester dans la honte. C'est presque fini.
Allez.
Je ne vois aucun autre mot qu'homophobie pour décrire ce que je ressens d'hostilité à mon endroit depuis quelques mois qu'a commencé ce débat. J'ai grandi hétéro en trouvant normal d'avoir les mêmes droits que tout le monde. Je vieillis Gwyn et je n'aime pas la sensation de ces vieux velus penchés sur mon cas et me déclarant déviante. J'aimais bien pouvoir me marier et ne pas le faire. Personne n'a à scruter à la loupe avec qui je dors, avec qui je vis. Je n'ai pas à me sentir punie parce que j'échappe à l'hétérosexualité. Moi, je vous fous la paix, tous, avec vos mariages pourris, avec vos gamins qui ne fêteront plus jamais Noël en famille, avec toute la famille, parce qu'elle est pétée en 2, en 4, en 10. Arrangez-vous avec votre putain d'hétérosexualité, comme ça vous chante. Trouvez des connes pour vous sucer la pine en disant que c'est génial de le faire gratos avant de vous faire cracher au bassinet en pension compensatoire. Vivez vos vies de merde comme vous l'entendez et donnez-moi les droits de vivre la mienne, comme je l'entends, avec les mêmes devoirs et les mêmes compensations que vous. Et de la même façon, pitié, arrêtez les âneries des psys sur les enfants adoptés qui doivent pouvoir s'imaginer que leurs deux parents les ont conçus ensemble. Pour les enfants adoptés, par un parent seul, c'est ignoble de vous entendre déblatérer. Mais surtout, arrêtez de croire qu'un petit Coréen ou un petit Haïtien regarde ses deux parents caucasiens en imaginant qu'il est sorti de leur ventre. Il est adopté, ça se passe bien ou ça se passe mal, mais il sait très bien qu'il n'est pas l'enfant de ce couple. Arrêtez de nous bassiner avec le modèle père et mère, quand on sait que la plupart des enfants grandissent autrement et que ça a toujours été comme ça. Quand les dirigeants déclarent une guerre, ils se foutent de savoir qu'ils préparent une génération d'orphelins de père. Arrêtez de vous raconter des histoires comme quoi l'hétérosexualité à l'occidental est la seule façon de vivre ensemble, que c'est la seule façon de faire partie de l'humanité. Vous grimpez sur le dos des Gwyn et des PD pour chanter vos louanges. Il n'y a pas de quoi, on n'est pas là pour ça. Vos vies dans l'ensemble sont plutôt merdiques, vos vies amoureuses sont plutôt calamiteuses, arrêtez de croire que ça ne se voit pas. Laissez les Gwyn et les PD gérer leur vie comme ils l'entendent. Personne n'a envie de prendre modèle sur vous. Occupez-vous plutôt de construire plus d'abris pour les SDF que de prison, ça changera la vie de tout le monde. Dormir sur un carton et ne pas savoir où aller pisser n'est pas un choix de vie, c'est une terreur politique. Je m'étonne de ce que le mariage vous obnubile autant, que ce soit chez les Jospin ou au Vatican, alors que la misère vous paraît à ce point supportable. Voilà, merci Virginie. Et donc, juste pour le dire, mais sans spécialement le lire, il y a eu quand même aussi l'un ou l'autre petit texte critique à son texte, disant... bon, et c'est la position, par exemple, de nos camarades de l'émission féministe Dégenré de Grenoble, qui organise cette semaine une émission de Dégenré sur le thème de l'adoption et du mariage pour les homosexuels, et qui sont assez critiques, évidemment, avec cette institution, et qui disent... Bon, elle est bien gentille, Virginie, de s'indigner pour le fait de ne pas avoir accès à ce droit-là. Mais bon, finalement, en fait, ça ne nous intéresse pas tellement, cette institution du couple marié.
Oui, moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'entends dans ce texte aussi, où elle dit, finalement, ah bah la famille, du coup aussi, ah bah l'État, et puis ah bah la guerre, où ça, elle parle inévitablement de... De ça, et du coup là-dessus, je sais que nos camarades
de
ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Écoutez Dégenré sur Radio Kaléidoscope à Grenoble. sont d'accord contre la famille, contre l'État, contre la guerre.
Oui.
Donc avec Virginie pour ça, et puis il y a des trucs dans les façons de dire les choses. Je peux tout de suite...
Non, là je proposerais bien de passer un petit bout de musique, et comme ça après on peut faire notre interview en
même...
direct.
Ok, on repart sur la même... En fait c'était la même chose dont je voulais parler.
Ah vas-y alors.
Ouais, parce que du coup il y a une super interview sur Radio Diwa, qui est que Louis a faite, ou dans lequel on rappelle que une femme sur 10 subit des violences dans son foyer. Donc c'est pour les violences au foyer. Une femme meurt tous les 2,5 jours en France de violences dans son foyer aussi. Et du coup, c'est une interview qui s'appelle une soirée d'information sur les violences conjugales organisée par les collectives. Et les collectives, c'est un collectif dont on avait déjà parlé à Feu de Toutbois, et qui est un collectif spontané, qui est, je trouve, d'une redoutable dynamisme, et qui a comme point de contact, par exemple, le centre d'information des femmes et de la famille, à l'espace social et culturel de Die et du Diwa, place de l'Évêché. C'est possible d'aller écouter cette interview sur rdwa.fr, ou bien à la libre antenne ce soir, puisque je la rediffuse. Elle dure 23 minutes et du coup, à partir de 23h, on écoutera. Puis ce sera aussi l'occasion, si vous le souhaitez, de téléphoner au numéro... Allez, c'est la raison de rappeler le numéro de la radio, ici aussi à Feu de Toutbois, 0952-368-531. Et bienvenue dans les studios aussi, pour écouter cette chouette émission, ou en podcast, toute l'année, sur RDWA.
Et j'en profite pour glisser une sorte de petite annonce, un peu de test. Il y a du gâteau au chocolat dans le studio ici. Donc si des gens nous écoutent en direct, parce qu'on ne sait pas si des gens nous écoutent en direct,
vous pouvez
venir dans le studio nous dire bonjour et avoir droit à un morceau de gâteau au chocolat. Mais
en plus, il est très bon.
Ouais. Est-ce qu'il n'est pas resté dans les bureaux? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train... Il faudrait aller voir dans les... Mais une musique, on va voir dans le bureau s'il n'y a pas... Vous êtes peut-être là déjà. Ils nous écoutent dans le bureau.
Un petit morceau d'un groupe qui s'appelle le Quartet Buccal.
Yo.
Non, non,
c'était
pas
un
ça.
Autre alors. Là, c'était encore des camarades grecs.
Ouais, qui c'est décidément... les Grecs qui repartent. Waouh. Mais maintenant, on va écouter vraiment
du buccal.
Le morceau qui s'appelle Babette du Quartet Buccal.
Chaque fois que je te vois, Babette, y'a un volcan au creux de moi qui fait ding ding dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète? Tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourtant, avant de te connaître, je ne flashais que pour de beaux gars. Pas les plus machos peut-être, mais enfin ils en avaient là. Voilà soudain que je m'empêtre, tourneboulée dans de beaux draps. Oui, toi ma belle, tu as fait naître de drôles d'envies qui ne s'avouent pas. Tout comme moi, je me mets dans ce drôle de teint pour toi. J'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Je vais quand même pas te faire du plat, va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. J'aimerais me dévoiler, Babette,
mais tu m'ignores et me chagrines, car pas une pensée malhonnête derrière ta tête ne trottine. Je pâlis, tremble et deviens bête, je bafouille et me ratatine, quand tu me confies tes conquêtes exclusivement masculines. Dire qu'il me manque de doux bijoux pour te voir fondre entre mes doigts, je vais pas tenter le tout pour le tout, vu que j'aime assez mon petit chat. Mais si tu tombais à genoux devant un type nul et pétain, je serais tout prêt au cas où tu voudrais pleurer dans mes bras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi? J'ai jamais eu cette pulsion-là, les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me troubles à ce point, là j'y crois pas. Pourquoi toi, je ne peux même pas te faire du plat, va falloir que je remette mon cœur à l'endroit. Chaque fois que je te vois, Babette, y'a un volcan au creux de moi qui fait ding-dang-dong et qui pète. T'es la seule fille qui me fait ça. Comment dire sans te voir inquiète, tu me plais tout le tralala. Vu que t'es une fille et que j'ai des couettes, tout ça me met dans l'embarras. Pourquoi moi, je me mets dans ce drôle d'état pour toi? Pourquoi toi, j'ai jamais eu ces pulsions-là, les nanas, c'était pas mon truc avant toi. Pourquoi toi, tu me troubles à ce point-là, j'y crois pas. Pourquoi toi, je vais quand même pas te faire de plat, va falloir que je remette mon cœur à l'endroit.
Salut, chose promise, chose on arrivait techniquement à réaliser après cette musique enchaînée, pendant cet enchaînement de musique, à avoir Greg au téléphone, Greg qu'on avait eu au téléphone il y a deux ou trois émissions, je ne me rappelle plus, pour présenter la revue Notre École à l'occasion de la sortie du numéro qui, ça y est imprimé et les abonnés l'ont reçu et la diffusion commence. Greg, tu nous entends ? Alors moi aussi j'ai l'impression on t'entend très bien. Et du coup on avait prévu de se revoir pour parler plus spécifiquement de ce numéro une fois que je l'aurais eu dans les mains. Ça y est, tu me l'as envoyé et du coup je me suis dit tiens en fait on va pas en parler que ce soir avec toi, on va en parler encore d'autres fois. Et ce soir avec toi, ce qu'on s'était dit qu'on pourrait faire, c'était présenter la revue du point de vue avec le point de vue de la pédagogie sociale, un peu ce croisement, et puis présenter le numéro plus précisément, et puis ensuite aller creuser dans un thème que tu connais bien, qui est les EPK. Voilà, c'était un peu comme ça. Et
d'accord.
Du coup, cette revue, le croisement avec la pédagogie sociale, on sent vraiment ça quand on lit la revue, c'est une histoire de croisement.
Oui, tout à fait. En fait, ce numéro-là, c'est le numéro 33 de la revue Notre École, et c'est un numéro qui paraît après 10 ans de travail et puis 10 ans de publication. Et il apparaît d'une manière probablement un petit peu comme une sorte de bilan de ces 10 années écoulées, et effectivement sur le mode croisement, parce que c'est une des particularités de la revue, c'est d'être animé, on l'avait dit la fois dernière, par des militants de la CNT Éducation, donc par un syndicat, mais c'est une revue qui se veut ouverte le plus largement possible, qui essaye de faire intervenir le maximum de personnes. Et par exemple, sur ce numéro, on a tenu à travailler avec des gens qui participent à un chantier au sein de l'ICEM. Alors l'ICEM, je précise, c'est l'Institut coopératif de l'école moderne, plus connu en fait sous le nom de Mouvement Freinet. Ce sont les héritiers de ce qu'a pu pratiquer le Célestin Freinet et beaucoup d'autres dans sa classe. Et donc au sein de ce mouvement coopératif de l'école moderne, il y a un chantier qui s'appelle le chantier de pédagogie sociale, avec lequel on a monté ce numéro. Voilà, pour essayer d'aborder cette notion de pédagogie sociale qui peut paraître un petit peu mystérieuse comme ça au premier abord, et qu'on a essayé d'abord d'expliquer, et d'expliquer en la définissant, mais surtout en montrant en pratique ce que ça pouvait donner.
Ouais, parmi les héritiers, puisque moi je sais pas si la pédagogie institutionnelle est pas aussi héritière de Freinet en partie, ou qu'il y en a aussi d'autres qui... Mais du coup, c'est un héritage qui est assumé par des gens qui font de la pédagogie sociale, alors.
Ah oui, totalement, sachant que voilà, la pédagogie sociale, c'est un concept que nous, en fait, au sein de la revue, on a croisé, c'est assez étrange cette histoire, il y a maintenant 7-8 ans, je crois, on avait écrit un article qui s'appelait « Vers une pédagogie socialement critique ». Dans cet article, on essayait de définir un petit peu qu'est-ce que c'était cette idée de faire à la fois du syndicalisme et du pédagogique, c'est-à-dire avoir en même temps une réflexion sur nos pratiques. Pour beaucoup d'entre nous, on travaille au sein de l'éducation nationale, et avoir une réflexion sur ces pratiques et les mettre en cohérence, non seulement avec les luttes qu'on mène en tant que militants syndicaux avec nos collègues de travail, mais aussi avec le projet de société qu'on a, parce que la CNT, c'est un des rares syndicats qui reste aujourd'hui à se battre non seulement quotidiennement au jour le jour, mais aussi dans une perspective révolutionnaire pour changer la société. Et donc un des points de départ de la revue Notre École, c'était comment lier les deux, comment être en cohérence entre ses pratiques et ses aspirations, ses idéaux, et puis comment essayer de réfléchir, d'inventer peut-être, ou de renouer avec une pédagogie qui soit particulièrement attentive aux questions sociales, aux questions de transformation sociale, mais aussi aux questions d'inégalité sociale et aux moyens de lutter contre ces inégalités. Et on pense que c'est des choses qu'on espère qu'ils peuvent se faire au sein de l'éducation, mais en tout cas qui doivent être posées à partir du moment où on a l'ambition de travailler avec des enfants. Et oui, donc nous, la pédagogie sociale, c'est ça, c'est vers une pédagogie socialement critique.
Oui, c'est déjà, Greg, des éléments de définition que tu donnes, et parce que du coup, dans cet édito... Dans le premier édito, il y a deux éditos. Hein, cette revue est particulièrement fournie. D'ailleurs, c'est que la pédagogie sociale, ce serait de porter et de semer. C'est les premières lignes le long du chemin parcouru avec les enfants, les promesses d'un projet de société et qui s'inscrit dans le cadre d'une éducation progressiste. Et ce que tu évoquais juste avant, ça se ressent beaucoup dans la revue comme un cheminement vers un peu une adéquation entre ce qu'on imagine pour des enfants, entre guillemets, qui est aussi un rappel à nos propres vies. Parce que, en fait, dès le début de l'édito, à chaque fois qu'on lit de former des enfants à la capacité de s'exprimer sur ce qui peut améliorer concrètement leur milieu et conditions de vie, et pour commencer, le contexte de leur éducation, d'une part, à formuler des opinions sur les décisions qui les concernent, Et dans l'édito, textuellement, ça s'adresse aux enfants, aux enfants que moi je mets entre guillemets, du coup, là, pour ce que je veux dire, à délibérer, du coup, leur capacité à délibérer, décider, agir ensemble au moyen de procédures démocratiques à propos de sujets et de projets d'intérêt collectif émanant de leurs propres initiatives. Qui, maintenant, enfant ou adulte, peut dire faire ça? Et du coup, à chaque fois qu'on a enfant ici, on se rend bien compte que c'est les enfants en tant que classe dominée. Et ça, l'édito, moi, je trouve, il est bien, parce qu'il finit bien, en tout cas, je veux dire, là-dessus, sur que tous les enfants, qu'ils soient des classes populaires défavorisées ou des classes aisées, sont en régime d'oppression, sont en régime hanté. Mais en fait, on a tous et toutes été enfants. Et du coup, voilà, ouais, pour dire qu'on sentait, parce que tu venais de dire, on sent bien ce rapprochement dans le numéro comme un chemin vers ce truc, ce qu'on espère ce qu'on espère quand on est avec des jeunes, c'est aussi ce qu'on voudrait pour nous. Mais je te laisse continuer peut-être sur des éléments de définition de la pédagogie sociale.
Oui, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, le principe même, j'ai envie de dire, de la pédagogie sociale, c'est qu'elle ne peut pas être figée, puisqu'elle part du principe que c'est avec les enfants, quand c'est dans le cadre d'enfants, mais ça peut être avec tous ceux avec qui on participe à une communauté éducative, c'est un chemin qu'on fait. Donc partir sur un chemin en sachant déjà où on veut arriver exactement et de quelle manière, c'est biaiser les choses. Donc la revue, elle voulait démontrer aussi que cette notion, cette idée de pédagogie sociale, elle n'est pas réductible, de quoi qu'il arrive, elle n'est pas réductible à quelques recettes ou à quelques techniques. C'est vraiment une découverte, et une découverte qui ne se fait pas juste par quelques pédagogues comme ça, isolés et à l'écart du monde. Non, elle se fait, le chemin, il se fait en marchant, comme disent certains, et ça se retrouve tout à fait dans la pédagogie sociale. Alors oui, si on cherche à définir un petit peu cette notion, parce qu'il y a un des articles qui dit c'est tellement riche qu'on peut y mettre un petit peu tout et n'importe quoi du coup, et qu'on prendrait le risque d'appeler pédagogie sociale un petit peu des choses qui ne le sont pas forcément. Alors, la définition de la pédagogie sociale. Alors déjà, le terme, le concept, il a été forgé par une pédagogue militante polonaise, s'appelle Hélène Radzinska, et c'est quelque chose qu'elle a essayé de définir autour des années 1910. Et alors elle, sa manière de définir la pédagogie sociale, c'est d'inscrire et d'ancrer l'éducation, d'ancrer le travail éducatif dans le milieu, c'est-à-dire pas en faire quelque chose de déconnecté. On y reviendra certainement plus tard avec les exemples, par exemple en Kanaki, mais d'avoir une école et une éducation qui soient ancrées dans le milieu. Premier élément. Deuxième élément, que cette éducation, elle porte sur le milieu, c'est-à-dire que c'est à partir de l'analyse, de l'étude de ce milieu qu'on va pouvoir construire des contenus, des savoirs. Et troisième élément de cette pédagogie sociale, c'est qu'elle a une visée qui est une visée de transformer le milieu avec les gens de ce milieu. Donc c'est une pédagogie dans, à travers et pour le milieu. Donc ça, c'est ce qu'elle met en place, et de manière très très concrète, en Pologne, dans un contexte, la Pologne à ce moment-là, elle est occupée par à la fois l'Empire russe et l'Empire prussien, et donc dans une dynamique de lutte, de lutte sociale, de lutte pour la libération de la Pologne. Elle aura le droit à un séjour dans les camps de Sibérie, mais tout au long de sa vie, elle va essayer de creuser cette idée de pédagogie sociale. Alors, ensuite, la pédagogie sociale, on la retrouve dans des écrits de Célestin Freinet, qui s'est pas contenté d'être simplement un instituteur dans sa classe, mais qui a toujours eu, depuis ses débuts, un engagement, notamment syndical, dans un syndicat qui se définissait alors comme révolutionnaire, et qui était impliqué dans la vie de son village. Il avait monté un syndicat de paysans, il a participé à l'électrification de sa commune, et puis il s'est toujours engagé très très ouvertement pour renverser cette société. Et dans son combat, forcément l'école et la pédagogie avaient une place essentielle, mais c'était toujours dans une perspective de transformation sociale. Donc lui, il va reprendre ce terme dans certains textes de pédagogie sociale. Et puis, c'est quelque chose qui va être un petit peu oublié. Et puis comme ça ne vient pas avec Radinska forcément de France, une certaine distance par rapport à ça. Et ça réapparaît au détour des années 80, 90 et puis maintenant dans les années 2000 avec des gens souvent issus non pas de l'éducation nationale mais par exemple du milieu des éducateurs de rue. Et une personne comme Laurent Hoth, là, qui a beaucoup travaillé sur cette notion de pédagogie sociale et qui participe très activement à ce numéro. Et alors lui, la pédagogie sociale, il va la définir comme une nouvelle étape dans la réflexion pédagogique, alors qui va opposer à la pédagogie traditionnelle, celle qu'on connaît dans l'école de héritée de Jules Ferry et dans laquelle on a fréquenté les uns et les autres, où en fait l'élève, l'enfant qui apprend, il est simplement spectateur de ses apprentissages. Il reçoit des apprentissages, on pourrait dire aussi consommateurs. Face à cette pédagogie traditionnelle, il y a eu tout un mouvement qu'on a appelé le mouvement de l'éducation nouvelle, qui s'est développé pour réagir à ce système et qui a voulu faire de l'enfant un acteur de ses apprentissages. Donc ça c'est tout ce qui est pédagogie active, etc. Et puis la pédagogie sociale, elle viendrait pour rappeler aussi que l'enfant doit être un auteur de ses apprentissages et que c'est aussi à lui de construire avec ses éducateurs, avec les pédagogues, mais c'est à lui de construire ses savoirs, ses apprentissages et de s'impliquer à l'intérieur de ses apprentissages. Voilà pour une vision assez, il y aura encore des choses, des détails à peaufiner, mais peut-être qu'on y reviendra.
Alors des réactions peut-être dans le studio.
Oui, salut Greg.
Salut.
Je viens de découvrir en fait la revue qui m'a été fournie par Aline là, juste avant de rentrer dans le studio, que j'ai feuilleté un peu rapidement, mais du coup je me suis arrêté surtout sur l'édito où il y a quelques définitions de cette pédagogie sociale. Il y a quand même deux choses, enfin du coup je voudrais te poser une question à partir de deux phrases que j'ai trouvées dans cet édito. Le défi complexe et passionnant de toute éducation progressiste, ce serait devoir tenir la main de l'enfant et de tous les enfants, en même temps que, et jusqu'au point de devoir la leur lâcher. Ce qui renvoie à une autre phrase que j'ai envie de citer, qui est la dernière en fait, de l'édito, qui se termine par un projet de société qui permettrait à toutes les jeunes mains, certes, d'être tenues le temps d'être lâchées, mais lâchées aussi dans l'idée d'être solidairement tendues. La question que j'avais envie de te poser par rapport à cette idée de pédagogie, en l'occurrence sociale, mais qui, à mon avis, reflète un peu toute idée éducative. Qu'est-ce qui empêcherait que ces jeunes mains qui doivent être tenues d'abord puis lâchées, qu'est-ce qui empêcherait de ne jamais les attraper, de les laisser libres d'emblée?
Ah, oui, je vois. Je pense que, en particulier pour un certain nombre de participants à ce numéro, pour beaucoup, ce sont des éducateurs de rue qui se retrouvent dans les quartiers qu'on appelle les quartiers particulièrement défavorisés. Et puis, pour ce qui concerne les personnels de l'éducation nationale, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on enseigne, moi je suis dans la banlieue parisienne, à côté de Mantes-la-Jolie, et on enseigne dans des établissements, je suis en collège, où on s'aperçoit aussi de ce que peut être les ravages d'enfants laissés un petit peu comme ça en dehors de tout accompagnement ou de toute stimulation, parce que faut aussi leur tendre la main dans une perspective déjà de pas se laisser aller, ce qui peut dans certains cas arriver, et puis c'est aussi une forme de résistance par rapport au milieu environnant, parce qu'on a parlé d'une pédagogie qui s'appuie sur le milieu. Ce milieu, il peut être aussi hostile, je pense, je sais pas, au temps de cerveau de TF1 ou à la société de consommation, etc. Et c'est vrai que les enfants, par exemple, peuvent être particulièrement sensibles à ces choses-là. Et j'aurais envie de te répondre que les chemins vers l'émancipation, ils ont besoin d'acquérir un certain nombre d'armes, de cultures, de principes, et ne serait-ce que les valeurs de solidarité ou de travail collectif, elles sont pas forcément innées. Elles peuvent l'être dans certaines situations, mais elles le sont pas nécessairement.
En tout cas, elles sont pas mal étouffées par le système dominant quand même, ce qui peut empêcher les jeunes et les moins jeunes et les vieux de tendre la main, c'est l'apprentissage à l'individualisme et le fait que non, on ne tend pas la main, que ce soit pour aider ou que ce soit pour demander de l'aide, ça ne se fait pas. Voyons de quoi parlez-vous. Vous êtes hors système, hors sujet.
Ah non, c'est évident, il y a un article dans la revue sur une école antisociale. Par rapport à la définition que nous, on a donnée de la pédagogie, c'est clair que le modèle hérité de Jules Ferry, là, qui a été honoré et salué par le nouveau président de la République à sa cérémonie d'investiture, c'est un modèle qui est aux antipodes de ce qu'on imagine, de ce qu'on rêve et de ce qu'on veut faire. T'as tout à fait résumé les mots individualisme, compétition, concurrence. Dès qu'ils sont prononcés dans le cadre du libéralisme, ils font descendre tout le monde dans la rue. Quand il s'agit du fonctionnement de l'école, il n'y a pas grand monde pour pas trouver ça normal, évident. Et voilà, à l'école, il y a des contrôles. À l'école, on ne s'entraide pas. On apprend à pas tricher sur le voisin. On apprend à travailler pour soi et seulement pour soi et pas forcément avec les autres. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont, depuis sa création, véhiculées par l'éducation nationale. Et donc il y a aussi peut-être à tendre la main pour sortir le maximum de personnes de cette idéologie-là et de ces principes-là.
Oui, et moi j'ai l'impression qu'on tend la main des deux côtés. Moi, du coup, je fais pas éducateur, je fais animateur des fois, voilà. Et ce truc, je vois ce truc, l'ambivalence qu'il y a dans ce truc de tendre la main. Est-ce que c'est une position d'autorité ou de quel côté? Est-ce que c'est une position de dominance ou ok, vu que je suis auteur de moi, tendre la main, je le fais et j'assume que je le fais. Mais c'est pourquoi? Et du coup, est-ce que c'est pour te sortir toi de la merde ou est-ce que c'est pour moi? Me sortir de l'autorité, parce qu'en fait, franchement, moi, quand je fais des séjours d'animation, je tends la main pour que la personne que j'accompagne me montre où elle va et ce qu'elle a dans la tronche et me guide vers des choses qui sont où moi je ressens un besoin. Voilà, je fais pas ça très souvent, je ne risque pas le burn-out, mais je le fais comme un besoin de voyage de moi et je tends la main pour aller quelque part avec une personne, avec une rencontre. Et c'est sûr que en même temps, voilà, je lui fais mettre ses chaussettes et etc. Et du coup, il y a de tout quoi. Enfin, c'est hyper complexe. Mais il y a quand même toujours. Moi, je suis pas. Enfin, en fait, tous nous éducateurs, éducatrices de trucs adultes en général. On a, moi je ressens très fort que j'ai baigné dans ce que je suis pétri de ce truc d'autorité que je reproche à l'éducation nationale, mais j'en suis moi aussi fait. Et du coup, c'est des trucs qui sont hyper importants à analyser, comme ils poussent, je trouve, des trucs de pédagogie sociale où justement on se pose la question en miroir, nous qu'est-ce qu'on fait? On fait des assemblées, nous, pour décider, on a un salaire et du coup on est esclave d'un patron. Du coup, vas-y, mais toi sois libre. Mais nous, et du coup, ben, la pédagogie sociale, c'est ouais, nous aussi quoi. Je sais pas. T'avais commencé à parler. Ouais, je sais pas si on continue ou si on.
Juste, je trouve que tu expliques ça très très bien et beaucoup mieux que moi. Et que effectivement, là, cette histoire de tendre la main, alors deux petites remarques par rapport à ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que la position, elle doit être absolument pas dans une perspective de pédagogie sociale. Elle doit être absolument pas être nourrie de certitude ou voilà, de venir déverser un savoir, quand bien même il serait le plus honorable et le plus émancipateur. Voilà, il peut pas y avoir d'émancipation, il peut pas y avoir de libération des opprimés par les oppresseurs. Je prends les termes spécialement parce qu'il y a un article sur un pédagogue brésilien qui s'appelle Paulo Freire dans l'article, qui justement lui a bien réfléchi à ces questions, en tout cas a bien posé les problèmes que tu évoques dans un livre qui s'appelle Pédagogie des opprimés. Alors que je conseille, mais qui est super dur à lire, mais qui ça vaut le coup. Alors si on se balade sur Internet, on trouvera des présentations un peu plus accessibles de ce qu'il a dit. Mais et puis dernière chose, puisque tu évoquais le mot autorité, ça c'est intéressant parce que une des participantes à ce numéro, qui est d'origine polonaise et qui est venue travailler en France il y a quelque temps, elle a écrit un article, l'article sur Helena Radlinska. Et à un moment, elle dit la pédagogie sociale, c'est une pédagogie, il faut développer une pédagogie d'autorité. Et alors évidemment, nous, en lisant son article, on a bondi, quoi, cette arme-là, c'était... Mais en fait, pédagogie d'autorité, ça veut dire une pédagogie de l'auteur. Et c'est dans ce sens-là qu'elle l'exprimait. Et donc nous, on l'a remplacé parce que c'était beaucoup trop ambigu dans le cadre français. Mais ce que tu disais sur cette question d'autorité, voilà, effectivement, à partir du moment où l'enfant devient auteur aussi de ses apprentissages, et ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, c'est un horizon. Il peut plus non plus y avoir de questions d'autorité de la part du maître, comme on l'appelle fort justement.
Tu disais que, du coup, tu citais Laurent Hoth, je crois, qui est un des participants. Tu parlais de comment, en fait, comment toutes ces personnes qui ont contribué à construire ce numéro sont rencontrées, et puis après, après tu nous parleras plus précisément. On attend ce École populaire Kanak, mais parler ouais. Un peu de la revue avant de parler des Kanak.
Très rapidement, je parlais du chantier, c'est un groupe de travail, quoi, ils appellent ça chantier, de pédagogie sociale au sein du mouvement Freinet. Très vite, pour résumer, il se trouve que la particularité, la spécificité de ce groupe de travail au sein du mouvement Freinet, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'enseignants. C'est-à-dire que c'est des infirmières ou des infirmiers, des éducateurs de rue. Il y a l'édito dont on a beaucoup parlé là au début, il a été écrit pas par un enseignant mais par un médecin scolaire, un militant associatif. Et donc j'ai l'impression qu'un petit peu le point commun de tous ces gens, c'est qu'ils ont un regard sur l'institution qui est un petit peu décalé, enfin sur l'institution éducation nationale, parce qu'ils sont aussi tous pris dans leurs propres institutions, mais qui ne sont pas celles de l'éducation nationale, un petit peu décalé, et que du coup, ça apporte aussi une richesse de regard, parce qu'ils vont travailler avec ces enfants après les périodes scolaires, enfin le temps scolaire, ou pendant les vacances, ou avec des personnes qui sont déscolarisées, ou qui n'ont pas été scolarisées, parce qu'il y a des expériences d'ateliers d'alphabétisation, voilà. Et Laurent Hoth, là-dedans, il a un petit peu un rôle un petit peu emblématique, dans le sens où, à la rentrée dernière, il a démissionné de l'éducation nationale. Il avait été instituteur dans l'Essonne, dans le 91, la banlieue parisienne. Et puis, après avoir goûté d'autres pratiques, et notamment celle d'éducateur de rue, mais il a fait le constat un petit peu qu'il avait été au bout de ce qu'il pouvait faire au sein de l'école. Et donc, il s'est tourné vers autre chose. Mais je dis ça, mais la pédagogie sociale, elle peut aussi se faire au sein de l'école, avec toutes les limites et les ambiguïtés que ça représente. Mais c'est encore à l'heure actuelle, et puis ça nous fera peut-être la transition sur les écoles populaires kanak, c'est aussi là que se trouve la quasi-totalité des enfants, et en particulier ceux des classes populaires. Donc, difficile de faire l'impasse ou de croire qu'on peut être dans une démarche en étant simplement autour de l'école. Il y a aussi c'est ce qu'on questionne dans notre édito BIF, celui qui a été rédigé par les gens de la revue.
Ouais, et du coup, moi, ça me rappelle aussi quelque chose qui se passait à peu près au même moment que ce que faisait Hélène Radlinska, c'est par rapport à l'adaptation au milieu et à ce milieu populaire, c'est les expériences de Francisco Ferrer qui sont complètement parallèles, où alphabétiser les enfants, c'était parce que c'était aux enfants qu'ils pouvaient parfois avoir accès, enfin Ferrer et puis les gens qui s'en inspirèrent quand il a été assassiné, et c'était aussi pour alphabétiser, enfin pour donner l'accès à la lecture, à l'écriture au peuple espagnol et aux parents par l'intermédiaire des enfants. Et il y a eu une émission sur Feu de Toutbois où on a développé l'année dernière l'œuvre de Francisco Ferrer. C'était une parenthèse. Et du coup,
extrêmement intéressant. Oui, et puis bon, je pense que vous avez dû en parler, mais quand Freinet, enfin j'ai parlé de l'Institut coopératif de l'école moderne, le fait de reprendre l'intitulé école moderne, c'est une référence directe
à
Francisco Ferrer.
Oui.
C'est dans la continuité de ses luttes. Et voilà. Et Francisco Ferrer, il a cette particularité d'être un pédagogue, mais d'être, j'aurais même envie de dire, avant tout un militant engagé.
Et les écoles populaires kanak, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? C'est quand même, on va dire, c'est la France, et alors on ne sait pas ce qui se passe. Vas-y, moi j'avais jamais entendu parler, du coup c'est aussi par carence personnelle de ne pas m'intéresser aux ex-colonies, aux colonies actuelles de l'État dans lequel j'habite. Mais salut à tous les gens de Nouvelle-Calédonie et du monde entier qui nous écoutent sur Internet. Et puis aux gens de là-bas qui sont dans le Diwa et qui nous écoutent sur la FM, venez parler de chez vous. Et là, aujourd'hui, c'est les écoles populaires Kanak, une révolution éducative, un long article que je n'ai parcouru qu'en diagonale pointillé, parce que je me suis dit que vu que c'est toi qui le signe, tu pourrais nous en parler.
D'accord, alors j'ai essayé. Il est long et puis en fait, c'est la version abrégée. Il y a une version complète sur le site internet, parce que une fois que j'ai découvert au hasard d'une lecture en fait sur une histoire de l'éducation libertaire, il y avait 10 lignes sur les écoles populaires kanak, et j'étais comme toi, j'avais jamais entendu parler de cette expérience. Après coup, si, on va voir qu'en fait il y a des choses qui sont quand même arrivées jusqu'à nous, mais ce sigle là, école populaire kanak, il me disait rien du tout. Je ne savais pas ce que c'était. Bon. Et puis, en commençant à creuser un petit peu, parce que ça avait attisé ma curiosité, j'ai essayé de trouver des références, de voir ce qui s'était passé. Je suis tombé sur différentes choses. Alors, pour replacer le contexte historique, il n'y a pas que des questions historiques. On verra qu'il y a aussi beaucoup de questions pédagogiques dans cette expérience. Mais, donc tout commence en 1984. Mmh. On est en Nouvelle-Calédonie. Il y a un mouvement populaire assez important qui vise à obtenir l'indépendance de la Kanakie. On n'appelle pas ça la Nouvelle-Calédonie, mais la Kanakie. Et qui est lancé en fait par deux regroupements d'organisations dont on a entendu parler, en tout cas le premier c'est le FLNKS, qui a été créé au tout début des années 80, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, et qui a une branche syndicale qui s'appelle l'USTKE, l'Union Syndicale des Travailleurs Kanak, et le E c'est pour exploiter, et qui vont mener un certain nombre de luttes. Alors ça va donner des barricades, des barrages routiers, voilà, qui va déboucher sur la proclamation d'un gouvernement provisoire de Kanaki. Gouvernement évidemment en lutte avec le pouvoir colonial français, le pouvoir socialiste à l'époque, hein, on est en 84. Et donc une des premières décisions de ce gouvernement provisoire, ça va être d'essayer de régler le problème de la terre, qui est de la répartition des terres, qui est un problème particulièrement sensible. Mais il y a un second problème, encore peut-être plus douloureux et plus important dans ce contexte insurrectionnel, c'est celui de l'école.